COVID-19. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président kényan Uhuru Kenyatta. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre...
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous, accompagné de Firmin Max Kouyaweda à la production. Ravi de vous retrouver dans votre émission interactive. L'économie du monde entier est frappée par la pandémie de coronavirus. Comment vivez-vous cette période? Comment avez-vous maintenu vos activités, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou autres? Certaines alternatives comme le télétravail et les cours en ligne fonctionnent, mais pour d'autres, ces procédés sont incompatibles. On en discute ce soir dans À votre avis. Et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. On démarre cette émission avec un auditeur à Bamako, Mali. Bonsoir.
Bonsoir Ikia, bonsoir toute la VOA. C'est Koulibaly Issa depuis Bamako, Mali. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission, surtout avouer mon point de vue sur l'impact que cause la pandémie COVID-19 sur la vie universitaire et surtout sur la vie professionnelle. C'est quelque chose de très très difficile, surtout la pandémie COVID-19 nous a causé beaucoup de tort, surtout nous les étudiants. Je fais la licence 2 à l'université des sciences politiques et administratives. Vraiment, depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait de cours. Surtout vu la situation actuelle du pays, surtout dans un pays en voie de développement que tout le monde n'a pas les moyens de se procurer des téléphones Android pour accéder aux cours en ligne. Surtout des étudiants qui sont issus d'une famille très très démunie, ce n'est pas aussi facile pour eux. Cela fait à peine 4 à 5 mois, on est à la maison, on ne va pas à l'école. Et aussi on ne peut pas accéder au cours en ligne. Du coup, je dirais que cette pandémie COVID-19 vraiment a été quelque chose de très très grave pour nous les étudiants. Il y a des chefs de famille même qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Du coup, les commerçants, les gens qui travaillent dans les lieux publics, surtout les lieux dans lesquels, à travers les petites fêtes où les gens allaient visiter. Et avec cet argent-là, il y avait des chefs de famille qui nourrissaient leur famille. Mais on a vu la fête de tabac qui s'est passée, toutes les activités étaient stoppées. Mais quand même, je ne peux pas aussi citer un point positif du COVID-19. Et je ne peux pas. Tout ce que je peux dire quand même que la COVID-19 nous a mis en retard. Mais que faire? Parce que c'est une crise sanitaire au niveau international.
Merci Issa pour votre témoignage. Courage à vous. Et une pensée pour tous les étudiants qui nous écoutent. Être jeune et démarrer sa carrière dans le journalisme en RDC n'est pas chose aisée. C'est ce que veut nous expliquer Sandra Sony, qui nous joint de Lubumbashi.
C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'intervenir dans l'émission. Alors moi, c'est Sandra Sony, journaliste sportive en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la chaîne Malaika. Alors, les changements que la COVID-19 a amenés sur le plan professionnel s'est fait remarquer tout d'abord au niveau de la présence au travail. Depuis l'avènement de la pandémie à Lubumbashi, notre rédaction travaille en service minimum. On travaille en rotation pour limiter les contacts en réduisant le nombre de journalistes à la station, et ce dans tous les services. Et pour moi, en tant que journaliste sportive, sur le plan qualité du travail, à cause de l'annulation de plusieurs compétitions et événements sportifs, notamment sur le plan national, il y a la Ligue nationale de football, la Ligue 1 et Ligue 2, qui ont dû être clôturé, ça veut dire que la manche retour ne s'est pas jouée comme il fallait. Il y a l'entente urbaine des football de Lubumbashi qui ne s'est pas finie comme prévu à cause de la pandémie. Et ce qui fait que les rendements est sensiblement réduit, sinon drastiquement en certaines journées. Bref, la pandémie modifie fortement mon milieu professionnel et cela amène beaucoup d'inquiétudes, notamment sur nos rémunérations. Est-ce que nos chaînes tiendront à bien nous rémunérer jusqu'à la fin de la pandémie parce qu'elles sont aussi impactées économiquement? C'est la question qu'on se pose. On espère retravailler comme il faut.
Merci Sandra. On se dirige à présent vers Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, avec notre prochain auditeur.
Je me nomme Traoré Ousseni, né en Côte d'Ivoire. Je me débrouille en Côte d'Ivoire. Je suis chauffeur de taxi. Pendant les périodes de coronavirus, nous avons souffert en Côte d'Ivoire. Ça n'allait pas, ça va pas, il n'y a pas l'argent, on ne peut pas travailler, les clients ne sortaient pas, il n'y avait pas de personnes dehors. Et quand vous sortez, c'est dit, et Koulou fait ça à 21h. À partir de 19h, il faut te rapprocher de chez toi, le travail est gâté. Vraiment, honnêtement, c'était très, 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 très calvaire, c'était dur. Jusqu'à présent, nous vivons de ça. En Côte d'Ivoire, c'est un pays où les personnes ne sont pas recensées. On se débrouille dans la nature. Vous êtes confinés et puis bon, il n'y a rien. Personne, il n'y a rien qui vous vient comme les aides de l'État, il n'y a rien. Ça fait que vraiment, c'était tellement dur. Nous vivons toujours dans ça. Il faut payer maison, il faut faire quoi. Bon, vraiment, aujourd'hui, quand nous sortons, tu sors pour ne pas rester à la maison, tu roules. Jusqu'à le soir, tu descends. Quand tu fais la recette, tu n'as pas plus que 1000 francs, 1500. Bon, tu défends. Tu as une famille à la maison qui t'attend, tout ça. Donc, finalement, bon, il n'y a rien, quoi. En résumé, c'est dit. En résumé, ça a été dit, c'est une vilaine maladie qui est vraiment venue endeuiller tous les peuples du monde et en particulier la Côte d'Ivoire. C'est comme nous sommes malades parce qu'on ne peut pas aller au travail, personne n'embauche son ami, il n'y a pas de vol, on ne sort pas pour aller hors d'Abidjan. Vous êtes à Abidjan, bon, donc quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Nous prions que cette maladie vraiment prenne fin et pour que la vie revienne à la normale, pour que nous puissions nourrir notre famille et puis bon, essayer de progresser.
Merci pour votre témoignage. Monsieur Traoré évoquait le trafic aérien. La Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique subsaharienne à rouvrir les vols internationaux. À noter, l'Afrique a enregistré au cours des 3 derniers mois une baisse de 60 millions de passagers sur les vols internationaux et de 30 millions sur les vols domestiques, selon l'Association africaine des compagnies aériennes, qui prévoit une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 milliards de dollars pour les compagnies aériennes africaines sur l'ensemble de l'année. Situation donc très préoccupante pour les personnes dépendantes des activités liées au tourisme. Par ailleurs, Mohamed Al-Bakri, un responsable de l'Association internationale du transport aérien, a exhorté les gouvernements à fournir une aide financière urgente aux compagnies dont beaucoup risquent de s'effondrer selon lui. On retourne à présent au Mali avec notre nouvel auditeur.
Je suis M. Ibrahima Koulibaly, je suis travailleur humanitaire dans les ONG projets. Par rapport à l'impact du Covid-19 sur nos activités, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, un nombre considérable de nos partenaires sont confinés en Europe, ne peuvent pas venir travailler avec nous. Ils sont dans les organismes spécialisés des Nations Unies, dans les ONG internationales, sont aussi confinés dans leurs familles. Donc, ils ne travaillent qu'en ligne. Ce n'est pas facile. Certes, en ligne, on peut faire beaucoup de choses. Mais en live, quand on est ensemble, on peut faire des trucs beaucoup plus importants, des échanges beaucoup plus fructueux que de rester seulement en ligne. Donc, ça, c'est une des conséquences du Covid sur nos activités. Aussi, certains de nos partenaires directs ont été victimes du Covid. Dieu merci, certains ont pu être sauvés à l'hôpital, ont été guéris. Mais malheureusement, d'autres ont perdu la vie. Donc, d'où les risques pour nous tous. Nous avons collaboré, cohabité souvent avec ces gens-là. Donc, le virus a beaucoup impacté sur nos relations. Aussi, les communautés avec lesquelles on doit travailler, on ne peut pas aller directement maintenant vers ces communautés. Il y a une certaine distance entre nous et ces communautés et à cause du risque élevé du Covid, ce qui impacte négativement sur nos résultats. Au niveau du bureau, c'est la rotation qui fait que tout le monde n'est pas là au même moment et ça joue sur les résultats parce que le travail d'ONG, c'est un travail en chaîne. Donc si quelqu'un n'est pas là, souvent on l'appelle au téléphone, envoie des mails. S'il n'est pas tellement connecté ou disponible, ça traîne les dossiers. Voilà, c'est un résumé un peu ce que nous vivons ainsi.
Merci Ibrahima. Nous avons également en ligne une auditrice angolaise qui travaille dans l'humanitaire. Bonsoir Fanny.
Bonjour, je m'appelle Fanny Lomingo. Je travaille à Population Services International. C'est une ONG internationale qui travaille en santé dans à peu près une 60aine de pays. Je travaille avec le Cameroun et donc je les aide à faire la gestion de projets, surtout les projets qui tournent le Cameroun. Le Covid-19 a assez affecté notre travail parce que maintenant on doit travailler à partir de la maison. On voyage pas mal durant l'année et donc maintenant on doit faire tout ce qu'on faisait dans les pays sur lesquels on travaille à partir de la maison. Je travaille beaucoup plus tôt qu'avant pour pouvoir avoir des réunions avec le Cameroun. Et j'ai réaménagé ma vie à peu près autour de ça. Je me lève assez tôt, j'ai une routine et je termine aussi plus tôt pour que je puisse faire des marches et un peu prendre l'air, changer les idées, regarder des films.
Au vu de la réorganisation que vous venez de nous décrire, êtes-vous en mesure de dire qu'il y a aussi des points positifs de cette période de confinement ?
Le point positif, je dirais, c'est que j'ai plus de... Comment je peux travailler à tête reposée et je gagne du temps sur ma journée parce que j'ai pas à prendre le bus ou prendre la voiture pour arriver jusqu'au travail. Donc ça fait que je travaille plus, mais c'est dans un bon sens parce que je peux travailler à tête reposée et puis ça me permet de vraiment réfléchir. Des fois, par exemple, supposons, je suis en train de travailler sur un budget qui me prend la tête, je peux prendre une pause et me dire que vu que je dois le soumettre demain, je peux le reprendre, je peux revoir ça plus tard et peut-être qu'il y a quelque chose que j'avais manqué que je vais remarquer lors de ma revue à tête reposée. Le point négatif, c'est vraiment le fait que je puisse pas aller au Cameroun et travailler avec les équipes. On a des projets qui se terminent ce mois-ci et je peux pas faire ce qu'on appelle le close-out, m'assurer que le projet est clôturé de manière appropriée. Donc ça, c'est assez difficile parce que je dois donc vraiment suivre l'équipe de manière assez acharnée, les appeler, confirmer qu'ils ont fait ça et demander plus de documents. Donc c'est en fait au final c'est plus de travail, c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même si j'étais là-bas. Donc je dirais que ça c'est vraiment le plus gros point. Un autre, c'est d'être tout le temps à la maison. C'est un peu plus difficile d'avoir, comme on dit, le work-life balance, vu que quelqu'un peut se dire, à 19h ou 20h, il va m'envoyer un message ou m'envoyer un email, s'attendre que je réponde assez rapidement.
Merci Fanny pour votre contribution. Nous avons en ligne Alia Barré, auditrice nigérienne. Bonsoir Alia.
Bonjour, je m'appelle Alia Barré, je suis nigérienne mais installée au Sénégal, à Dakar plus précisément depuis 5 ans, où j'ai créé et basé ma marque, donc marque éponyme qui s'appelle Alia Barré, principalement spécialisée dans les vêtements pour femmes mais également pour hommes. Depuis que nous avons été confrontés à la crise du corona, donc cela fait un peu plus de 3 mois maintenant, en fait nous avons dû faire face à plusieurs difficultés. La première difficulté avant tout pour moi a été de mettre mes salariés à l'abri, entre guillemets, dans la mesure où ils prenaient tous des transports en commun pour venir en centre-ville. Et ces transports en commun, souvent bondés, étant pas sûrs du tout, il a fallu donc arrêter de les faire venir à l'atelier. Donc ça a déjà représenté une perte en termes de productivité. Nous avons mis en place un système donc pour qu'ils produisent de chez eux, mais c'était assez limité dans la mesure où je n'étais pas là pour contrôler la qualité. Également, tous les modèles sur mesure ont été arrêtés. Ensuite, dans un deuxième temps, on a été rapidement confronté au problème de la fermeture des boutiques. Donc, sachant que la moitié de mes ventes se fait au travers donc, de concept stores dans différents pays, donc au Niger, en Côte d'Ivoire, au Congo et 3 boutiques à Dakar, qui en moins d'une semaine ont toutes fermé du fait des difficultés. Donc du jour au lendemain, donc la production a été ralentie, les ventes ont été stoppées net. Et je considère qu'en tant qu'entrepreneur, si on peut se le permettre, dans la mesure où nous sommes une très petite entreprise, les salariés font partie de la famille et ce n'est pas en temps de difficulté qu'on doit les abandonner. Et surtout que la crise est arrivée juste au moment où nous allions au travers du Ramadan, donc il y a une période donc de jeûne, mais également de dépenses pour de nombreuses familles. Et le rythme a un peu repris, mais tout de même, dans le contexte économique actuel, la plupart des clients n'ont pas vraiment la tête à consommer. Et surtout que, justement, les conférences, les événements, les soirées n'ont toujours pas repris. Donc, les gens n'achètent pas vraiment de tenues de sortie. Donc, on a eu une légère amélioration des ventes sur Internet, mais ça ne compense pas les pertes qui ont été occasionnées au cours des 3 derniers mois. Maintenant, on essaye de rester optimiste. On essaie de le prendre avec philosophie, dans la mesure où on se dit que on a la santé. Après, j'avoue qu'on a eu aussi la chance d'avoir quelques clients très fidèles qui ont continué à nous soutenir pendant la période. Donc, ils ont continué à commander parce qu'elles savaient que la période était plus compliquée. Donc, en commandant en ligne, en commandant à distance, donc avec des services de livraison. Donc, ça a permis de maintenir les coûts minimums fonctionnels. Maintenant, dans le futur, on espère une reprise rapide de manière à ce que les choses reviennent à la normale.
Merci Alia pour votre témoignage. Bien évidemment, tous les employés n'ont pas cette chance d'avoir des employeurs leur offrant des garanties minimum. De nombreuses personnes ont perdu leur travail. Les économistes parlent d'une récession sans précédent. Pour la Banque mondiale, l'économie pourrait rebondir d'environ 4% en 2021. Mais le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté devrait rester inchangé selon un récent rapport. Le Nigeria, l'Inde et la République démocratique du Congo, trois pays qui abritent selon la Banque mondiale plus d'un tiers des pauvres du monde, devraient avoir des taux de croissance du PIB par habitant respectivement de moins 0,8%, de plus 1% et de plus 0,3%. Alors, comment faire pour inverser la tendance? Sur la page Facebook VOA Afrique, Alphonse Boaki à Kinshasa nous dit ceci. La RD Congo commence déjà à planter du maïs à Lualaba pour s'autosuffire alimentairement et le ministre de l'Agriculture relance le projet agricole de Bukanga Lonzo laissé par le président Joseph Kabila et aussi d'AIPN, une ferme avicole abandonnée par le maréchal Mobutu. Toujours en RDC, Djuma Bin Mulagwe de Lubumbashi, c'est au gouvernement de prendre des précautions suffisantes pour subvenir à nos besoins. Nous allons poursuivre la discussion avec l'animatrice ivoirienne Gliss, qui exerce également dans l'entrepreneuriat.
Je suis donc fondatrice des salons de beauté Beautiful. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais j'ai foi qu'il y en aura plusieurs. Pour moi, ça a été l'occasion d'expérimenter les services à domicile. Vu que ça pouvait constituer un foyer de contamination et que c'était fermé, il fallait développer un autre moyen de travailler, continuer à travailler parce que on avait besoin de faire des entrées et tout. On a développé sur notre plateforme, parce qu'on est suivi quand même par 35 000 personnes sur la page. Et je vous assure, ça a été très très bénéfique. Je pense même que les gens ont beaucoup apprécié les services à domicile et que du coup, après le corona, on a gardé quand même ce côté presse à domicile en fait. On y allait avec nos gels hydroalcooliques, les cache-nez. Et les maisons où on allait tresser aussi avaient leur dispositif. Tout était bien organisé.
De quelle manière avez-vous réadapté votre activité?
Ça m'a appris à développer un autre modèle économique. Ça m'a appris à faire mon travail autrement. D'ailleurs, on gagnait un petit peu plus parce qu'on facturait même le déplacement. On a établi un contact de proximité avec les clients parce qu'évidemment, on n'est pas tout le monde entré chez soi. Les clientes ont tendance à garder la même cliente, à la faire revenir plusieurs fois. Donc, il y a un suivi par derrière et tout. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était une très, très bonne expérience. J'ai pu aussi découvrir qui dans mon équipe était vraiment dévoué, sur qui je pouvais vraiment compter par temps difficile, ainsi de suite. Pour le reste, c'était quand même assez négatif parce que au-delà de tout, on aime bien la convivialité que ça crée d'être ensemble dans le salon, le partage, on apprend les unes des autres, entre femmes au salon à bavarder, ça nous a un petit peu manqué et tout. Et puis, c'est la maladie, il y a eu des cas par-ci, par-là. Là et tout. Je retiens que c'était une période assez triste quand même.
Merci Gliss. Internet semble être la solution alternative pour bon nombre d'entre vous. C'est également par ce biais que notre auditrice centrafricaine Edna Oupère. Bonsoir Edna.
Je m'appelle Edna Luisa Amokomayen. Je suis centrafricaine de nationalité. Je vis aux États-Unis. Je suis life coach et aussi je suis motivateur, comme on le dit.
J'ai ma page Facebook qui s'appelle Link Up with Edna. Ce que j'appelle, c'est L-I-N-K et space up U-P space with comme avec W-I-T-H et Edna qui est mon prénom. C'est sur cette page-là que je fais ce live et c'est aussi sur cette page-là que mes clients sont à mesure de prendre rendez-vous avec moi. Je prends des clients en Afrique, en Europe, aux États-Unis, ça dépend. J'organise deux services. J'ai le self-empowerment qui est plus pour les gens qui désirent faire de progrès soit dans leur vie professionnelle, soit sur eux-mêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui a été abattu par une expérience ou deux ou trois expériences dans le passé. J'ai aussi eu des cas de suicidaires, des gens qui n'arrivent pas à se passer de leur ex. Enfin, ça touche dans tous les aspects de la vie. Ça, ce service, ça perçoit un problème. Et aussi, j'ai un autre service qui s'appelle coaching. Coaching session is more like ça, c'est que je reçois plus des gens qui ont des problèmes dans leur relation. En fait, ils m'expliquent leur relation, s'ils traversent une période pas bien avec leur partenaire, ou s'ils veulent s'engager avec quelqu'un dont ils ne sont pas sûrs, ou bien ils ne savent pas comment se comporter ou faire face à tel et tel problème dans leur relation. Ils expliquent leurs problèmes et je leur donne ensemble, en fait, je dis souvent ensemble, on y travaille. Et quelquefois, certains de ces sujets, d'autres me proposent, ils veulent avoir l'avis de plusieurs personnes et j'utilise ces sujets-là pour faire des lives et à travers ces lives-là, d'autres personnes apprennent de cela aussi.
Effectivement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme vous le disiez. Est-ce que les réseaux sociaux vous permettent concrètement de subvenir à vos besoins?
Ça m'a permis d'agrandir mon audience, non seulement, comme on le dit, une bénédiction sous forme de malheur, en fait. Donc avant, je ne faisais pas les lives. Pendant cette période, j'ai dû faire un programme dans lequel je faisais un live sur Facebook chaque 2 jours. Et vu que tout le monde était à la maison, ça m'a vraiment permis de me connecter avec mon audience. Ce qui m'a poussée à faire de ça une habitude maintenant. Avant le confinement, je crois, j'étais à 6 000 et quelques abonnés. Et ce temps non seulement m'a permis de gagner plus de 4 000 abonnés, où je suis à plus de 7 000 actually, parce que je suis à 14 000 abonnés maintenant.
Et oui, ça me permet d'avoir un revenu parce que j'organise aussi des sessions de coaching personnel où je charge par heure, au fait. Je reçois des appels par WhatsApp ou par n'importe quel réseau social où mes clients désirent communiquer. Ça dépend de la durée qu'on passe au téléphone. Il m'est arrivé de rester au téléphone pendant 5 heures de temps. Je charge par heure et alors ça les aide aussi à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et moi, ça m'aide à faire des revenus et aussi à avoir d'autres clients. Parce que la plupart des clients, quand ils sont satisfaits, ils font des recommandations à d'autres personnes.
Merci Edna. À présent, une auditrice originaire de Bukavu en RDC.
Bonjour Ekia, merci de nous avoir aujourd'hui. Je m'appelle Viviane Fouraha, je suis une pharmacienne de formation et un coach. Mes services de coaching focalisent sur les femmes cadres et professionnelles occupées. Je les aide à trouver un épanouissement personnel et joyeux et à travailler à laisser un héritage durable à notre société. Mais le plus important, je suis une mère d'une petite fille de 7 ans. Je suis aussi une activiste du droit de la femme et de la santé pour tous. Nous avons commencé avec d'autres amis, une organisation non gouvernementale au Congo, et ça s'appelle Imara Women Empowerment Foundation. Mes activités, c'est autour de ces différents rôles, et je fais aussi des consultances avec les organisations non gouvernementales, ainsi que des entreprises sociales. Tout ce que j'apprends dans ma vie, que ce soit de façon conventionnelle ou par expérience, j'aime les partager. Je passe beaucoup de temps à écrire des blogs, livres ou des posts.
Comment avez-vous réussi à réadapter votre activité?
Nous avons pu adapter ces activités en ligne. En tant que mère, je me suis trouvée en plein temps enseignante, comme les écoles ont été fermées, parce que l'éducation de ma fille, c'est ma plus grande priorité, au fait. Nous collaborons avec l'école, elle a des classes en ligne avec ses enseignantes, et je l'aide avec les exercices et le devoir. Une des priorités que je puis constater, et que les mamans, surtout les mamans, qui commencent à me poser les questions, comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs enfants à la maison, l'éducation au Congo, surtout les gens qui sont dans les systèmes publics, c'était un peu dur d'avoir accès à l'Internet et de communiquer avec les écoles et tout ça. Donc, nous avons commencé une activité dans IWEF, dans notre ONG. C'est éducation de qualité à l'île pour aider les parents, les enseignants, les écoles d'avoir accès libre à un système d'apprentissage à distance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à ces moments.
Merci Viviane. Et si vous êtes en RDC et que vous souhaitez promouvoir cette plateforme d'enseignement scolaire, n'hésitez pas à prendre attache avec l'intéressé par mail viviane@viviane.com ou via son Facebook Viviane Fouraha. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Firmin Max Koyaweda à la réalisation. Merci également à vous pour votre fidélité. Vous pouvez également réécouter l'émission sur notre site www.voaafrique. C'était Ekia Badou avec vous et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.